Et nous allons trouver l'écrivain fantôme Bruno Tessarec qui a prêté sa plume à de grandes personnalités françaises interviewées par Margot Delpierre pour Backstage le podcast. Backstage le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son, qui réalisent ces podcasts et nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, l'ensemble de ces podcasts sur le site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Troisième épisode donc de l'entretien avec Bruno Tessarec, enregistré en octobre 2018, une interview de Margot Delpierre sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Alors c'est encore dans Art Nègre, page 72, vous écrivez « Nègre et romancier, il n'y avait pas un si grand écart entre les deux démarches. L'une comme l'autre mettait en jeu le réel et l'imaginaire. Simplement, elles inversaient les polarités. Une des tâches du romancier consiste à rendre un personnage aussi crédible qu'un être de chair, tandis que le nègre élève son client aux dimensions d'un personnage. » C'est cette dernière phrase qui m'intéresse, l'élever aux dimensions d'un personnage. Ça veut dire que dans certains cas, vous vous êtes autorisé à faire du romanesque avec une vraie vie, un vrai vécu, vous êtes autorisé à enjoliver peut-être la réalité pour que ça corresponde aux attentes du public ?
Pas forcément pour que ça corresponde aux attentes du public, mais je me rappelais plus cette phrase, je la trouve pas mauvaise du reste. comment dirais-je ? Il faut malgré tout que vous transformiez. Alors, est-ce que c'est un processus romanesque ? Je sais pas, mais il faut quand même que vous arriviez à transformer la personne que vous avez en face de vous, qui est souvent une personnalité, en personnage, voire en héros. Il faut trouver l'angle. Et c'est pour ça que les gens extrêmement connus, je pourrais vous citer deux exemples après, parce que comme je suis remercié d'une façon très, très, très nominative, et puis c'est des gens bien, donc ils vont pas me chercher grief de citer leur nom. Comment dirais-je? Ce qui est intéressant chez les êtres, dans la vie comme dans les livres, c'est un peu leur point de fragilité ou leur zone de mystère. Et quand vous arrivez à débusquer un peu cette zone de mystère ou cette fragilité, vous êtes déjà un peu dans un travail romanesque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous faites. Vous savez, comme dans le temps, quand on travaillait l'argentique en photographie, il y a un moment donné où dans le bain, quelque chose se révèle comme ça. La photo commence à apparaître. C'est ce moment qui est passionnant. C'est que la vraie... Et là, vous transformez la personne que vous avez en face de vous. Vous faites sortir des tressaillants qui ne sont pas à des années-lumière du travail du romancier. Vous voyez ?
Vous parlez de travail de thérapeute discret aussi dans le livre.
Oui.
Des fois, vous vous considérez un peu thérapeute ?
Alors, thérapeute, je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans la manière de poser des questions et de faire venir votre interlocuteur a des aveux qui viennent à une rapidité déconcertante. Quitte à ce qu'après, la personne vous dit « je vous ai dit ça, mais il ne faut surtout pas le marquer ». Ça, ça se produit assez souvent. Mais au ras des marguerites, tout le monde aime se raconter. Rares sont les gens qui n'aiment pas se raconter. Surtout quand c'est des gens connus, qui ont donc quand même un ego déjà assez surdimensionné. D'accord ? Mais quand en plus, ils vous disent des choses authentiques sur eux-mêmes, humainement, c'est assez fort, si vous voulez. Et c'est souvent autour des fragilités ou des origines. Par exemple, j'ai écrit il y a un an un livre qui a moins bien marché que ce qu'on aurait voulu, qui était la biographie de l'ex-producteur, entre autres, de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus. Bon. Jean-Claude Camus, probablement le plus grand producteur de spectacles de sa génération. C'est lui qui a fait pour Johnny le Parc des Princes, le Grand Stade, les trucs aux Champs, comment dirais-je, sur l'esplanade de la Tour Eiffel, enfin des trucs énormes. Bon, Jean-Claude Camus, jusqu'à, il a, je sais même pas s'il a son certificat d'études, il vient d'une toute petite famille quasiment ouvrière de Normandie, jusqu'à 30 ans, il est organisateur de bals populaires du samedi soir. Quand il vous raconte ça, et qu'on voit où il est arrivé, c'est complètement fascinant. Je vous donne un deuxième exemple. Jean-Marie Cavada. Mais ça, c'est un peu plus. Jean-Marie Cavada, c'est un enfant, comme on disait dans le temps, de l'assistance publique. qui a été élevé dans une ferme, je ne sais plus si c'est dans la Meuse ou dans la Moselle, par des gens extrêmement simples, qui a réussi à faire des études universitaires, qui est rentré à Radio France à l'époque, Nancy ou je ne sais pas quoi, et qui a fait son chemin comme ça. Mais écouter Jean-Marie raconter son enfance dans la ferme, c'est extrêmement poignant quand on voit que ce type est devenu un des plus gros patrons de presse audiovisuelle après, vous voyez. Donc, les origines, la fragilité, l'authenticité des personnages, on la rencontre dans le métier que je fais. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Et c'est humainement très riche.
Est-ce que ça peut vous servir de matière ensuite pour vos propres romans ?
Non. Puisque vous les avez eu la gentillesse de les citer tout à l'heure, j'ai écrit deux livres sur ce métier, l'un avant de le faire et l'autre, Arnègre, après l'avoir fait pendant 15 ans. Et à chaque fois, j'ai voulu essayer de faire de la fiction et j'y suis très peu parvenu. Les deux sont... L'autre, c'est le premier, c'est presque un récit, anticipateur de la réalité, et l'autre, c'est un peu un compte-rendu de mon travail. Donc... C'est pas si facile que ça. Vous savez, le réel, quand il est très fort, il colle à la peau. Les bons personnages de roman, c'est des personnages dont vous avez l'idée en éclair, comme ça. C'est pas des gens que vous connaissez bien. Parce que les gens que vous connaissez bien, ils ont une espèce de... Le réel a une résistance, si vous voulez, à la fiction. Tous les romanciers le savent, il vous arrive une chose extraordinaire dans votre vie. Ou vous avez une expérience professionnelle... Autour de vous, on vous dit « Ah ben toi qui es romancier, écris un roman là-dessus ». Si ça vous touche de très près, vous avez beaucoup de mal à écrire un roman. Eh bien, les gens que j'ai rencontrés dans mon métier me touchent de près. Et c'est très difficile d'en faire autre chose que ce qu'ils sont.
Est-ce qu'il y a des fois de la frustration à ne pas pouvoir dire que vous êtes derrière un livre ? Peut-être un livre dont vous êtes fier ou un livre qui a incroyablement bien marché ?
Non. Non, parce que... Non, parce que il n'y a pas de frustration, il y a au contraire une forme de fierté en se disant, c'est peut-être, faut pas se leurrer, c'est quand même le nom de la personne qui est en première de couverture qui arrache le morceau. Mais vous pouvez avoir cette forme de fierté qui peut confiner à la vanité, de se dire, bon, j'ai pas fait un trop mauvais travail et peut-être que si quelqu'un avait été à ma place, le livre marcherait pas aussi bien. Donc, il n'y a pas de frustration. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Du reste, le public le sait. Parce que le grand public n'est pas forcément informé de tout ce dont nous parlons, un peu du dessous des cartes. Mais regardez cette chose. Tous les éditeurs vous diront que vous faites un livre avec une personnalité connue, reconnue. Vous la faites sous forme de dialogue. Ce qui correspondrait à la vérité de l'élaboration du livre. La forme dialoguée, les ventes sont inférieures. C'est-à-dire que les lecteurs, obscurément, sans trop chercher à comprendre, ont besoin de la fiction du « je » qui raconte. Si vous mettez en scène le personnage qui raconte sa vie dans la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans les entretiens, les ventes sont moins bonnes. Donc, c'est une fiction. Si vous voulez, c'est un peu comme un travail de magicien. Tout le monde sait que c'est de la magie, mais ça marche comme ça. Si on vous dévoile trop le truc, ça marche moins bien. Donc, il y a une fiction, mais la plupart des gens savent que c'est pas eux qui les ont écrits.
Vous pensez ça ?
Ah oui. Ah oui, j'en suis à peu près convaincu, oui.
Vous êtes nombreux à faire ce métier d'écrivain fantôme ?
Je crois qu'on est assez nombreux.
Vous connaissez pas tous ?
Non, oh ben non, on se rencontre pas. Vous savez, l'écriture, c'est un truc très solitaire, hein. L'un des plus connus, c'est Dan Frank, qui a fait ça pendant des années et qui, je ne sais pas s'il continue à le faire. Il ne continue pas à le faire parce qu'il est tombé dans un autre bain, Dan Frank, en dehors de son travail d'écrivain comme moi-même. Il est tombé dans un autre bain qui est aussi un métier parallèle à l'écriture et qui présente les mêmes charmes et les mêmes poisons. C'est de travailler pour la télé, d'être scénariste. Ce qui est aussi un travail très excitant. J'ai plusieurs amis qui font ça, qui ont écrit quelques romans, puis ça n'a pas forcément marché. Bon, ils ont eu l'opportunité de rentrer dans un travail de ce qu'on pourrait appeler un atelier de création. C'est toujours collectif, les scénarios. Donc, ils rentrent là-dedans. C'est une ivresse, paraît-il. Et en plus, c'est bien payé. C'est un autre métier un peu comme ça, vous voyez.
Mais il n'y a pas de profession équivalente à celui d'écrivain fantôme, c'est quand même très particulier.
Les doublures au cinéma ou au théâtre, c'est un peu ça. Mais sinon, non, vous avez raison, je vois pas bien à quoi on pourrait comparer ça. Vous connaissez l'origine de, vous savez à quel moment ça commence ce métier de...
Pas du tout.
Ça commence essentiellement au 19e siècle. Ça commence, le premier, entre guillemets, atelier d'écriture un peu collectif que l'on connaît, c'est autour d'Alexandre Dumas.
Ah oui.
Il y a du reste Maquet, sur lequel il y a eu un film il y a quelques années où Depardieu joue le rôle de Maquet.
Autour de la reine Margot notamment.
Oui, pratiquement autour, et des romans, beaucoup de romans. Autour de la reine Margot, autour de pièces, autour de romans. C'est un peu là que ça commence, parce que les écrivains au 19e siècle commencent vraiment à vivre de leur plume. Avant, ça existe peu, ils vivent pas vraiment de leur plume. D'abord, il n'y a pas le droit d'auteur, donc c'est un autre système. Et ils produisent beaucoup. Évidemment, quand il y a une très grosse production, on fait appel à des collaborateurs. J'ouvre une parenthèse. Ce métier de co-auteur qui a commencé par la fiction au 19e siècle, essentiellement autour de Dumas, même presque que du Dumas, parmi les gens connus, parce que Balzac n'a jamais eu de co-auteur, même Eugène Sue n'en a pas eu non plus, Stendhal, Flaubert, évidemment non. Donc ce métier qui commence par la fiction, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de co-auteur de fiction. Il doit y en avoir, mais c'est extrêmement marginal. C'est extrêmement marginal. Alors que dans tout ce qui est biographie, récit, etc., c'est au contraire l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-unanimité.
Mais pourquoi être écrivain fantôme et pas biographe, par exemple ?
Parce que ça ne se vendra pas. Je vous dis, le lecteur a besoin de la fiction, qui est une demi-fiction, en vérité, du jeu qui raconte. C'est étonnant, hein, ça. Mais c'est une bonne question que vous posez. Le genre biographique situe tout de suite... Les mémoires de Jean-Claude Camus se sont pas aussi bien vendues que l'éditeur l'espérait. Vous imaginez quelqu'un qui va écrire un livre sur Jean-Claude Camus? C'est pas gagné. Il faut vraiment arriver à un degré de starisation ou de quasiment légendaire pour qu'on écrive la biographie d'une personnalité vivante.
Donc les biographes vivent beaucoup moins bien que les écrivains fantômes.
Sans doute.
Parce qu'il y en a beaucoup des biographes.
Il y en a beaucoup, oui. Ou alors il faut écrire des biographies très brillantes et qui ont beaucoup de succès. Mais je pense pas que de toute façon les ventes... Assouline a écrit des biographies brillantissimes de Hergé, de Gaston Gallimard, d'autres personnes dont le nom m'échappe. C'est des livres brillantissimes et très documentés et très bien faits, mais j'ai pas le sentiment qu'il ait vendu des dizaines de milliers de biographies à chaque fois. C'est un public très restreint.
On parlait de Patrick Henry au début, ça ne s'est pas très bien passé. Est-ce qu'il y a un livre dont vous n'êtes pas très fier? Et vous vous dites, il n'y a pas mon nom sur la couverture et peut-être c'est tant mieux. Pas forcément, je ne parle pas de la qualité d'écriture, mais peut-être du personnage qui ne vous inspire pas grand-chose.
Oh oui, il y en a. Il y a eu des grosses déceptions. Je ne peux pas vous les dire, hein, bien sûr, mais il y a eu des grosses déceptions. Je l'ai évoqué un peu à un moment donné tout à l'heure. Quand une personne vous raconte des choses, tout en vous disant, oui, mais ça, il ne faut pas que ça soit dans le livre. Quand ça devient systématique, c'est épuisant.
À ce moment-là, pourquoi faire un livre ?
Exactement. Alors, votre question est excellente parce que, pourquoi faire un livre ? Vous avez tout à fait raison. Je me le suis posé plusieurs fois. Et moi, je vais vous répondre cash. Pourquoi faire un livre ? Parce que la personne à qui on demande de faire le livre, c'est pas elle qui a envie de faire un livre. C'est l'éditeur qui vient la chercher en disant, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous racontiez votre vie, c'est passionnant, vous avez vécu plein de choses, ceci, cela, vous êtes très connu, mais il faudrait qu'on vous connaisse mieux grâce à un livre. Enfin, des arguments qui sont extrêmement valables, hein, je ne les discute pas. Mais la personne dit, ah bon, vous croyez ? Moi, vous savez, j'ai pas beaucoup le temps. Parce qu'on oublie une chose dans cette histoire de co-auteur ou d'écrivain fantôme, on oublie le temps. C'est pas uniquement le manque de capacité à écrire des personnes, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que faire une vingtaine d'heures d'entretien puis discuter le coup, aller prendre un ou deux repas ensemble, ça occupe pas grand-chose dans votre vie et relire le texte qu'on vous soumet. Est-ce qu'écrire un livre à temps complet, c'est 3 ou 4 mois minimum. Donc, il y a aussi la disponibilité des personnes qui est en jeu. Donc, l'éditeur leur dit, mais vous faites aucun souci, on vous proposera 1 ou 2 ou 3 personnes et vous les choisirez. Donc, si vous voulez, n'oublions pas que c'est l'éditeur qui, très souvent, dans les maisons d'édition, les personnes qui sont à la tête des services, essais, documents, biographies, sont des têtes chercheuses. Ils vont sans arrêt chercher les gens dont on parle ou à qui il est arrivé quelque chose d'intéressant en leur disant « je vous apporte un contrat ». Donc, si vous voulez, pourquoi écrire un livre ? c'est pas forcément la personne concernée qui a eu l'idée d'écrire le livre. Donc déjà ça, vous voyez, au départ, un romancier, on le sait tous, hein, vous écrivez un roman, la première fois, vous envoyez votre manuscrit à 15 maisons d'édition. C'est vous qui êtes demandeur, vous, l'auteur. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est très rarement l'auteur, celui qui signe le livre, qui est demandeur. C'est l'éditeur qui est demandeur.
Donc c'est toujours la même chose, c'est une question d'argent.
C'est un peu une question d'argent et de... Alors, ne soyons quand même pas trop bruts. C'est une question d'argent et puis aussi de flatterie. Parce que, ça c'est très intéressant, ce que m'a appris ce livre, ce que m'a appris ce travail, entre autres choses, c'est que même quelqu'un qui a gagné énormément d'argent, qui a eu une vie, qui connaît tout Paris, hein, l'idée de faire un livre, même si sa part personnelle reste assez faible, est une fierté infinie. Et ça renvoie à la place, ô combien merveilleuse, espérons que ça durera le plus longtemps possible, de l'écrit dans notre société.
Parce que ça reste, parce que c'est éternel.
L'écrit est prestigieux, il reste, il est éternel, les choses sont là. Autant l'image, d'accord, l'écrit, c'est très très fort. Et donc on rencontre aussi chez la personne. J'ai même rencontré, je pourrais pas vous dire qui, non seulement parce qu'il y a la discrétion, mais en plus parce que je sais plus vraiment bien de qui il s'agit. Mais une ou deux personnes extrêmement connues ont dit, en se drapant dans la toge de leur fierté à l'éditeur, ah, mais moi je toucherai des droits d'auteur si le livre marche, je ne veux pas d'avaloir. Le fait que vous me permettiez de raconter ma vie est en soi une chose merveilleuse. Ça, c'est assez émouvant.
Donc,
vous
c'est
pas
une question d'argent et d'ego.
Oui, d'ego. Et de reconnaissance
c'est pas
par le livre. Vous voyez, ce sont des gens qui, en général, ont tout connu, la gloire ou l'argent, la réussite. Je pense, par exemple, à quelqu'un, j'ai écrit il y a 3, 4, 5 ans un livre pour quelqu'un qui a été le plus grand promoteur immobilier de son temps, qui a gagné, mais un argent, mais démentiel, qui a eu le tout Paris à ses pieds, qui connaît tous les architectes, tous les maires, tous les élus, tout le monde. Le bâtiment, on sait quand même que c'est un drôle d'univers. Mais l'idée qu'on lui propose d'écrire ses mémoires, mais il était comme un gosse à qui on offre pour la première fois un tambour ou une trompette. C'est très étonnant, hein. C'est peut-être à la fois, je sais pas si c'est dérisoire ou émouvant, quelle est la part du dérisoire et de l'émouvant dans ce que je vous raconte. Moi, ça m'émeut.
Après, il y a des personnalités qui fuient. Dans le livre Art Nègre, vous parlez de votre amitié, en tout cas de l'amitié du personnage avec Jean Rochefort, mais il me semble que vous l'avez connu.
Oui, dans Art Nègre. Oui, je l'ai connu. Oui.
Lui est au début tenté, et puis finalement, ça ne se fait pas.
Non.
Donc il y a aussi des gens qui fuient, c'est rare, mais il y a des gens comme Jean Rochefort.
Vous avez tout à fait raison. Alors le livre ne s'est pas fait, il en a fait un tout seul qui n'a pas vraiment imprimé la pellicule, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est vrai. On a beaucoup travaillé ensemble, on était devenus assez proches. Mais là, comment vous dire, dans le cas de Jean, c'est pas parce qu'il est décédé que je dis ça, c'est la vérité. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans mon livre. C'est que c'était même pas le livre qui était en cause. C'était même pas le livre qu'on était en train de faire qui était en cause. C'est les difficultés existentielles, presque métaphysiques, psychologiques, métaphysico-psychologiques, sur j'ai tout raté dans ma vie, je suis un grand... Parce que c'est extraordinaire. Quelqu'un qui a été l'un des comédiens les plus brillamment comiques de sa génération, les plus intelligemment comiques...
Et qui n'était pas forcément très bien dans sa peau.
Qui n'était pas bien du tout dans sa peau. Qui a eu quand même la carrière qu'on connaît. Il ne parlait pratiquement que des films dans lesquels il occupait des rôles tragiques.
Alors lui, c'était impossible de le raconter.
Non, parce qu'il était trop angoissé, trop torturé, trop déchiré. Et que probablement, si vous voulez, bon ça c'est de la psychanalyse de super-être que je suis en train de faire, mais que probablement le fait d'objectiver ses malaises et sa difficulté, alors que pour tout le monde c'est le sommet de la réussite, lui était trop douloureux. Du reste, il n'a pas aimé mon livre. Hein.
Pourtant,
son silence me l'a dit. Mais pourtant, je trouve que je fais un très beau portrait de lui, très vrai en même temps, qui aurait été celui qui aurait dû sortir du livre qu'on faisait ensemble. Moi, je lui disais, Jean, il faut que vous soyez vraiment vous-même. Mais c'était compliqué.
Il était trop sensible.
Très torturé, très sensible, très torturé.